cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 19 février 1992. 1992.
Pour la deuxième modalité de l'être en acte, vous êtes parti en premier lieu de l'intelligence. Pourquoi ? Ne peut-on pas dire que l'être en acte est enfin l'esprit et vu au plan métaphysique en premier lieu comme appétit spirituel et donc fondamentalement comme volonté ? Le bien ne serait-il donc pas une modalité antérieure au vrai? Je sais bien, on peut discuter là-dessus. Ce qui est sûr, et c'est ça qui est important à voir, c'est que, il me semble bien, que la première modalité de l'être en acte, c'est laisser. C'est-à-dire, ce qui vient actuer l'être dans ce qu'il a de plus fondamental, de premier. La substance demande à subsister et donc à exister. Évidemment, comprenons bien, la substance comme principe est saisie comme un absolu. Mais la substance, par rapport au jugement d'existence, exprime la source. À l'être en acte. Nous reviendrons là-dessus, du reste. Alors, la seconde modalité, je mets le point de vue de la vérité, je comprends très bien qu'on puisse mettre le bien. Quand saint Thomas se pose la question de savoir qu'est-ce qui est antérieur, l'intelligence ou la volonté, il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant. Il montre que l'intelligence a une noblesse plus grande que la volonté. Donc, considérée en elle-même, l'intelligence est première par rapport à la volonté. Mais par rapport à l'exercice, la volonté passe avant. Puisqu'elle atteint le bien. Et que le bien est ce qui finalise, ce qui suscite un amour. Alors, quand on regarde les liens entre le vrai et le bien, on peut dire par le fait même que le vrai, au plan métaphysique, est antérieur au bien. Puisque la métaphysique regarde tout du point de vue de l'être, et elle est une science. Donc elle regarde le point de vue de l'intelligibilité. L'intelligibilité du vrai est antérieure au bien. Le bien présuppose la connaissance. Et c'est dans ce sens-là que j'ai mis le vrai avant. Mais je comprends que dans l'ordre de l'exercice, si j'étais en éthique, je mettrais le bien avant. Vous voyez, l'exercice est d'ordre pratique. Tandis que la connaissance, la science analyse. Parce qu'elle analyse, elle regarde le point de vue de l'intelligibilité avant. C'est pour ça que je crois qu'on peut très bien mettre première modalité, l'essai, seconde modalité, le vrai. Troisième modalité, la bonté. Qu'est-ce qui est la finalité de l'intelligence? Qu'est-ce qui finalise l'intelligence? C'est le vrai. C'est l'être en tant qu'il est capable d'actuer, de déterminer l'intelligence. Primo catitin intellectus ens. Ens en tant que vrai. Et l'intelligence actuée par la réalité possède une certaine vérité. Donc on peut, du point de vue métaphysique, mettre le vrai immédiatement après l'essai. Ça peut très bien se soutenir, ça. Parce que je suis dans un ordre métaphysique. Bien évident que du côté pratique, je mets le bien avant. Donc, c'est normal que vous ayez la réaction spontanée de mettre le bien avant le vrai. C'est un signe de santé. Parce que c'est vrai dans notre vie, le bien est avant l'être dans notre vie courante. Parce que là, nous sommes dans l'ordre pratique. Nous ne vivons pas au niveau métaphysique. Parce qu'alors là, on marcherait sur la tête. On ne vit pas au niveau métaphysique. Tandis qu'on vit au niveau éthique. Donc, au point de vue de notre vie spirituelle, c'est tout de suite le bien. Mais je suis dans l'analyse métaphysique. Puisque je suis dans l'analyse de la philosophie première, après avoir saisi l'être en acte, distinct de l'être en puissance, je vois tout de suite sa modalité substantielle, l'être en acte substantiel, existant d'une manière substantielle, c'est l'essai. Puis, l'être en acte par rapport à l'intelligence, c'est le vrai. Et l'être en acte par rapport à la volonté, c'est le bien. De sorte que je crois qu'au plan métaphysique, il faut maintenir cet ordre-là. Essai, vérité, bonté. Je dis bien, dès que vous êtes dans l'ordre pratique, vous prendriez le point de vue du bien avant. Donc en éthique, si vous voulez, puisque le bien commande toute l'éthique. Mais comme nous sommes dans l'analyse de l'être, le vrai est plus proche de l'être que le bien. C'est ça qui va vous faire mieux comprendre. Comment pourrait-on encore préciser, parce que c'est intéressant à bien saisir ça. Le vrai touche l'être dans ce qu'il a de plus fondamental. spécifier mon intelligence. C'est pour ça que pour moi, pour mon intelligence, le vrai est d'ordre substantiel. Tandis que le bien implique aussi d'être substantiel, le bien, comme fin. Mais il n'est pas saisi par rapport à l'être d'une manière aussi immédiate. Il est l'être en tant qu'il finalise la vie. En tant qu'il est capable de me donner le bonheur. C'est ça le bien. Le bien, c'est ce que tous désirent. À l'égard du bien, je suis attiré. C'est quelque chose d'ultime dans l'ordre de l'être. Tandis que le vrai, j'allais dire, est quelque chose de substantiel dans l'ordre. Et par rapport à l'être en acte, la seconde modalité de l'être en acte, c'est bien ce qui actue, détermine mon intelligence, mon esprit. Donc, voyons tout de suite, si vous voulez, ce point de vue du bien. Dans l'ordre génétique, parce que c'est important de bien saisir ce que c'est que le bien, dans l'ordre génétique, le bien est découvert à partir de l'amour. C'est en aimant l'ami que je découvre qu'il est mon bien. C'est l'amour qui est le fruit propre du bien en moi. Le bien éveille en moi l'amour. Il suscite en moi une connaturalité. Le bien attire. Et le bien, dans son absolu, c'est ce qui attire d'une manière ultime. Et ce sera le bien fin. Au niveau pratique, je distinguerai tout de suite le bien qui attire, mais qui n'est qu'un moyen relatif à autre chose. Donc l'attraction est relative. Tandis que celui qui attire d'une façon ultime, c'est le bien fin. C'est ma première connaissance du bien, c'est toujours à travers l'amour. Et le bien spirituel, c'est la personne. C'est donc dans l'amour d'amitié, et par l'amour d'amitié, que je découvre ce que c'est que le bien fin, qui me saisit, qui me prend, qui me permet de me dépasser. C'est l'expérience. Je ne dis pas première, parce que la première expérience de la fin, je crois, c'est à partir du travail. C'est dans la philosophie de l'art, où je découvre l'œuvre que je fais. Mais immédiatement après, et d'une façon plus profonde et plus intérieure, je saisis le bien comme ce qui suscite en moi un amour. C'est à travers l'amour que je saisis le bien. C'est donc une connaissance affective, vous voyez. Une connaissance par connaturalité. Mmh. je saisis le bien par rapport à l'être. Et je vois, je souligne que le bien, dans ce qu'il a de plus profond et de plus radical, la raison de bien, est convertible avec la raison d'être, avec la raison de vrai. Mais je peux préciser que cette raison de bien implique toujours le point de vue de l'essai. Le bien comme tel existe. Il est l'être en acte. Il est l'être en acte en lui-même. Et le bien ne peut pas être idéal. C'est peut-être ça qui vous fait le mieux comprendre. Le bien ne peut pas être un idéal. Mais distinguez bien le bien et l'idéal. L'idéal, c'est quelque chose que j'imagine. Il y a toute une part d'imagination dans l'idéal. C'est quelque chose que je poursuis. Mais je ne sais pas si ça existe ou pas. On a des rêves comme ça. Et on est porté par ça. On peut être porté par un idéal. Au début, dans la jeunesse, on a un idéal de vie. Un idéal de vie nous porte, nous aide à avancer. Et on s'aperçoit que cet idéal de vie, il n'est jamais accessible. Toujours loin, lointain. C'est pour ça que ça fatigue. Et ça risque à un moment donné, quand je m'aperçois que cet idéal n'existe pas. Alors il y a une retombée atomique qui est lourde et qui n'est pas commode à accepter. Parce que là on dit, mais à quoi? C'est une illusion. Tout est illusion. Alors que le bien qui m'attire, il existe. Il est. Et en tant qu'il existe en acte, il m'attire. Et ce n'est pas seulement l'être en acte, c'est l'être en acte capable de susciter en moi un amour, capable de m'attirer. Si l'amour est extatique, si l'amour implique une sortie de soi pour trouver l'autre, le bien, c'est justement le bien seul qui peut susciter ce dépassement. Là où il y a quelque chose de très curieux et très particulier. Vous voyez, le vrai n'implique pas ce dépassement. La vérité, elle est au-dedans de moi-même. Elle est dans mon jugement. Le vrai, ontologique, mesure la vérité, mon jugement. C'est vrai. Mais il mesure mon jugement pour que mon jugement soit vrai. Le bien, je ne le possède jamais, puisque je suis attiré. Et le bien suscite en moi un amour. Donc, un aspect extatique. Ce n'est que le bien qui me permet le dépassement. Je ne me dépasse que quand j'aime le bien. Le vrai comme tel, la vérité comme tel, ne donne pas ce dépassement et ne réalise pas ce dépassement. Ça, c'est très important de comprendre ça. Et ce qui n'empêche pas que le vrai finalise mon intelligence. Mais le vrai ne finalise pas ma personne. La vérité est quelque chose d'essentiel à ma vie et à mon bonheur, mais ce n'est pas tout mon bonheur. Mon bonheur, il est dans le bien que j'aime. Il y a là deux aspects extrêmement proches et très importants à bien saisir au plan métaphysique. De comprendre que le bien ne peut se saisir métaphysiquement, donc intellectuellement, que par l'être en acte. C'est l'être en acte qui me permet de préciser ce qu'est le bien. L'être en acte entend qu'il est capable de me finaliser. Et seul l'être en acte est capable de me finaliser. Puisqu'il est quelque chose d'ultime dans l'ordre de l'être. Il est fin. C'est vraiment lorsque je saisis cette troisième modalité de l'être en acte, je saisis parfaitement l'être en acte. Il y a là quelque chose qui s'explicite et qui s'explicite que dans le bien. Alors vous voyez que là, tout de suite, je peux saisir la distinction entre l'entelekeia et l'energeia. L'entelekeia, c'est l'amour que j'ai pour le bien. Grâce à l'amour, je demeure dans le bien. Et l'energeia, c'est le bien lui-même qui a cette capacité de susciter en moi un amour. La quatrième modalité, ce sera l'opération vitale. Alors vous voyez que cette quatrième modalité est tout à fait différente. Si vous prenez l'essai, le vrai, le bien, là vous touchez l'être en acte dans ce qu'il a d'ultime. Dès que vous regardez l'opération vitale, j'ai dit que le bien, je l'atteins par l'amour. L'amour est une opération vitale. L'opération vitale la plus parfaite, c'est l'amour. Alors vous voyez, ce qui est entelekeia par rapport au bien devient energeia par rapport à ma faculté de vie. C'est très curieux. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre comment les deux expressions d'Aristote, entelekeia et energeia, se tiennent. Et que la distinction est uniquement une distinction que l'intelligence fait. Parce que dans la réalité, l'amour, opération vitale. Toute opération vitale est être en acte. Le scolastique dira, c'est l'acte second. Et en dernier lieu, le mouvement. Là, je suis en présence, philosophie du vivant, philosophie de la nature. Pour mieux comprendre ces cinq modalités, je vais essayer de comprendre le point de vue de l'être en puissance. Puisque l'être en acte se distingue de l'être en puissance. Si j'ai cinq modalités de l'être en acte, il y a donc cinq modalités de l'être en puissance. Ça ne peut pas être autrement. Cinq modalités de l'être en puissance. Alors, qu'est-ce qui est la modalité de l'être en puissance par rapport à l'essai? C'est la substance en tant qu'on la considère comme essence. La fameuse distinction entre essence et existence. Essence et essai. L'essai est l'acte de ce qui est capable d'exister. Et l'essence, c'est cette capacité d'exister. Capacité d'être. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant à saisir. C'est que la substance, je la saisis comme un principe. Et quand je la saisis comme un principe, elle est indivisible. Elle n'est pas en puissance. Un principe n'est jamais en puissance. Donc, c'est le principe radical selon la forme de tout ce qui est. Mais, quand je regarde la substance comme sujet, c'est-à-dire non plus comme principe, mais en tant qu'elle est capable d'exister, ce n'est plus le principe, c'est le comment. Par rapport à l'essai, par rapport à l'être en acte. Je saisis l'essence. Qu'est-ce que c'est que l'essence? C'est la capacité d'une réalité à exister. Donc l'essence ne se comprend que par rapport à l'être en acte, l'essai. Je ne saisis pas l'essence tout de suite. Je la saisis toujours relativement à l'essai. Le vrai, l'intelligence, elle est capable d'atteindre le vrai, posséder d'une certaine manière la vérité. Donc, la puissance, l'intelligence comme puissance est tout entière ordonnée au vrai. Elle est en puissance vers le vrai. Le bien, la volonté. La volonté, c'est la puissance de la personne, humaine. Elle est capable d'être attirée par le bien. L'opération vitale, c'est l'acte de toutes mes puissances vitales. Toutes mes puissances vitales sont actuées par l'opération. Je suis capable de voir. La capacité de voir est en puissance à la vision. Et la vision actue ma capacité de voir. Et le mouvement actue le mobile. Le mobile, c'est l'être physique, matériel. Comme il y a donc cinq modalités de l'acte, il y a cinq modalités de la puissance. Je saisis après l'acte, forcément, puisque c'est l'acte qui me permet de saisir ces modalités. À partir de là, je vais réfléchir quel est le lien qui existe entre l'être en puissance et l'être en acte. Et quelles sont ces cinq modalités de l'être en puissance relativement à l'être en acte? Je peux dire que l'être en acte est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. La puissance d'être en puissance n'est intelligible qu'à cause de l'être en acte. C'est l'être en acte qui seul est parfaitement intelligible. L'être en puissance n'est jamais totalement intelligible. Il est tout entier relatif à l'être en acte. Il est tout entier pour l'être en acte. Mais il n'est pas parfaitement intelligible. L'être en acte est premier, donc dans l'ordre de l'intelligibilité, dans l'ordre de la connaissance. Il est premier dans l'ordre aussi substantiel. L'être en acte est séparé et peut-être séparé. Tandis que l'être en puissance est toujours relatif. Donc il est toujours second. Il n'existe au sens réel que grâce à l'être en acte. Alors, ce qui est très curieux, c'est que lorsqu'il s'agit du devenir, l'être en puissance est premier. L'ordre du devenir, l'être en puissance est premier. Le devenir n'existe qu'à partir de l'être en puissance. Et ne peut exister qu'à partir de l'être en puissance. Alors vous voyez que cette distinction de l'être en acte et d'être en puissance me fait comprendre comment tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. Mais quand je suis dans l'ordre du devenir, il y a cette chose très curieuse, c'est que la puissance conditionne tout. Et les premiers. Et c'est vrai que le devenir implique ça. Et c'est pour ça que ici, lorsque je suis en présence de la quatrième et de la cinquième modalité de l'être en acte, je m'aperçois que l'opération vitale et le mouvement impliquent un devenir. Toute opération vitale implique un devenir. Le mouvement lui-même, c'est le devenir. Et c'est pour ça qu'il y a, dans ces deux dernières modalités de l'être en acte, quelque chose de très nouveau et très particulier. respiration vitale ne peut pas se séparer du devenir. Et le... Donc, il ne peut pas se séparer de l'être en puissance. Vous voyez, si on compare la première division de l'être, l'être, substance, l'être, qualité, ce qui est, se divise en l'être, substance et l'être, qualité. La substance est saisie en premier lieu. On voit que la substance est première d'une manière absolue. Ça, c'est sûr. Il n'y a que l'être substance qui existe. Pleinement. Donc, il y a une priorité absolue de l'être en substance. Tandis que quand il s'agit de l'être en acte, l'être en acte est premier dans l'ordre de l'intelligibilité, dans l'ordre de l'être. Mais quand il s'agit du devenir, l'être en acte s'efface devant la puissance. Ceci, c'est très important à noter, parce que ça me permet de comprendre que le devenir existe. Héraclite disait le devenir n'existe pas. Platon, le devenir n'existe pas. Donc, il faut comprendre que quand il s'agit du devenir, tout est inversé. Et c'est ça qui est important à saisir. Si je confonds l'être et le devenir, je ne saisirai jamais l'être en acte. Et je dirai toujours que l'être en acte émerge de l'être en puissance. Et donc, génétiquement, l'être en puissance est premier. Et le rapport entre la psychologie et la métaphysique, ils sont là, si on veut les saisir. La psychologie saisit le devenir, donc toujours la potentialité. La métaphysique saisit l'être. Et en nous, il y a les deux. Dans notre personne humaine implique que nous existons. C'est sûr, nous existons, mais nous existons dans un devenir. Je n'existe pas éternellement. J'existe dans un devenir. Je suis né à tel moment. Terrible devenir. Je suis né dans le 20e siècle, dans la seconde partie du 20e siècle. Pas moi, mais vous. Ça fait une partie du 20e siècle. Mais ça modifie tout ça. Je dis bien, ça modifie tout. Ça ne change rien au point de vue métaphysique. Vous voyez, l'exégèse est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'étudie l'exégèse ? Le devenir. Surtout quand on étudie l'Exode, c'est un double devenir. Et alors, c'est toujours la puissance qui est antérieure à l'acte. Si je ne vois pas que le devenir et devenir distinguent de l'être, je ne saisirai jamais la finalité. C'est pour ça que c'est très très important. C'est pas commode, hein. C'est une réflexion métaphysique au sommet que je fais là. Parce que ça implique la distinction de l'être substance, l'être qualité, l'être en acte, l'être en puissance, les deux grandes divisions de l'être. Je vois que ces deux grandes divisions de l'être ne sont pas du tout adéquates. Vous allez tout de suite saisir. Je ne saisis ma finalité, l'être bien, que par mes opérations d'amour. Donc, le devenir est toujours présent. Je ne peux pas saisir ma fin, mon bien, sans assumer, j'ai dit bien, sans assumer le devenir. La tentation, et c'est la tentation de Platon, c'est-à-dire le bien est premier, donc il est au-delà du devenir. Si le bien est au-delà du devenir, vous ne le saisissez jamais. Vous le saisissez à travers le devenir. C'est la même chose pour la vérité. Vous devenez intelligent, mais vous n'êtes pas dès le berceau. Vous devenez tous les jours un peu plus intelligent. Et ceci, j'espère, progressera jusqu'au moment de votre mort. Normalement, ça doit progresser tout le temps. Mais vous ne pouvez pas vous séparer du devenir. Et l'analyse de l'être en acte me montre que le devenir s'introduit dans mon être d'une façon telle que c'est grâce au devenir que j'atteins le bien. Puisque c'était par l'opération vitale de l'amour qui implique tout le temps un devenir, c'est une opération vitale. Mais cette opération vitale de l'amour a ceci de très particulier, c'est qu'elle est liée au devenir dans son exercice. Et cependant, elle est liée au bien, à l'être en acte, dans sa détermination. Il y a quelque chose de substantiel dans l'amour et il y a quelque chose d'accidentel dans mon amour. L'exercice de mon amour est accidentel et la détermination de mon amour est substantielle. De mon amour spirituel, pas de l'amour passionnel. L'amour passionnel est purement dans le devenir, c'est plus facile. Ça, quand vous dites à quelqu'un « je t'aime passionnément », ça veut dire « je ne t'aime pas éternellement ». C'est ça que ça veut dire. « Je ne sais pas demain. Aujourd'hui, je t'aime passionnément. » Ah, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. La passion passe. Mais la passion passe et le lendemain, il y a le brouillard. La passion est éteinte. Tandis que quand vous dites à quelqu'un « je t'aime et je te choisis comme ami », c'est l'amour spirituel qui est au-delà de la passion et donc qui est au-delà du devenir et qui touche quelque chose de substantiel, la vie. Donc vous voyez, ces deux distinctions de l'être, substance, qualité, accident, l'être en acte, et l'être, ne se rejoignent pas. Et c'est là toutes les difficultés. Ce sont deux visions analogique de l'être. C'est pour ça qu'on dit analogique. Elles ne se rejoignent pas. Elles sont distinctes, sur deux plans différents. L'une est fondamentale et l'autre est ultime. Regardons encore quelque chose de très important. Quand je compare l'être en puissance et l'être en acte, je peux dire tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Je suis donc là en présence d'un principe et du principe de finalité. C'est vrai. Puisque l'être en puissance n'existe qu'à cause de l'être en acte. Donc tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Vous voyez donc que la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance me permet de saisir le principe de finalité dans toute sa pureté. Ça qui est si important, puisque je saisis l'être en puissance totalement relatif à l'être en acte. Et ce principe, quand je saisis que l'être en puissance est totalement dépendant de l'être en acte, quand je l'énonce, quand je l'explicite, j'explicite le principe de finalité. Qu'est-ce que c'est que la finalité ? Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Cette relation de l'être en puissance par rapport à l'être en acte. Alors vous allez dire, oui, tout ce qui est en puissance est dépendant de ce qui est en acte au niveau de l'être. Dès que je suis dans le devenir, puis-je dire tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Je dois dire tout ce qui est en puissance est premier par rapport à l'acte. Alors, ça dépend bien de l'être en acte, au niveau de l'être. Le devenir existe, donc il est. Mais en tant que devenir, il n'est pas finalisé. Il conditionne l'être en acte. Ah oui, comme c'est curieux, ça. Là, je saisis la limite de la finalité. Puisque je vis dans un monde du devenir, ça je ne peux pas nier, et moi-même je porte ce devenir. Le devenir limite la finalité, puisque du côté du devenir, l'être en puissance est antérieur à l'être en acte. Donc, l'être en devenir est conditionné par l'être en acte. Et je veux dire, l'être en acte dans l'ordre du devenir est conditionné par l'être en puissance. Pas déterminé, mais conditionné. Il peut se faire que le conditionnement est tel que je ne vois plus la finalité. C'est ce qu'on appellera la situation limite. La situation limite, c'est quand le conditionnement de l'être en puissance est tel que je ne vois plus la finalité. Il y a un philosophe, je ne sais plus son nom, j'aurais dû garder ça, un philosophe italien qui a écrit il y a quelques années, l'homme actuellement est en situation limite. L'homme ordinaire, pas un novice de Saint-Jean, mais en dehors de cela, l'homme d'aujourd'hui est en situation limite. Il ne voit plus sa finalité. C'est comme la ville de Mexico qui ne voit plus les volcans qui l'entourent. À cause du conditionnement. Et l'homme d'aujourd'hui ne voit plus sa finalité. Quel est l'homme politique aujourd'hui qui voit encore sa finalité, la finalité humaine ? Il ne voit que le conditionnement. On pense l'Europe au niveau de son conditionnement. Quel conditionnement de l'Europe ? L'aspect économique. L'aspect économique conditionne, mais ne finalise pas. Elle ne peut pas finaliser l'esprit. On est en situation limite quand on ne voit plus que le conditionnement. Ça, c'est dramatique. Parce qu'une humanité ne peut pas vivre longtemps dans l'ordre du conditionnement. C'est une humanité qui, quand on dit qu'elle est en situation limite, elle se met dans cette situation limite. Ça qui est terrible. Alors, ce qu'on peut, c'est soi-même, grâce à la foi, grâce à la philosophie, comprendre ça et être lucide. Mais on n'a pas beaucoup d'efficacité, ça c'est sûr. Et alors, c'est très important de saisir la limite de la finalité. À quel moment la finalité est étouffée ? Lorsque le devenir l'emporte sur l'être. Puisque quand le devenir l'emporte sur l'être, l'être en puissance est antérieur à l'être en acte et le conditionne. Et peut le conditionner d'une façon telle qu'il n'émerge jamais, qu'il n'émerge plus. Ça, il faut réfléchir beaucoup là-dessus. Et c'est la métaphysique de l'être en acte et de l'être en puissance, vous voyez, qui éclaire ça. Alors, je voudrais, en terminant, regarder avec vous ces cinq modalités du principe de finalité. Personnellement, quand j'ai découvert ça, j'ai découvert les cinq voies de saint Thomas. C'est curieux. C'est pour ça que j'y tiens beaucoup. Parce que je ne peux comprendre les cinq voies de saint Thomas que lorsque je comprends ces cinq modalités du principe de finalité. C'est normal. Vous voyez, il y a cinq modalités du principe de finalité. Puisque tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Au niveau de l'essai, c'est le possible. Alors, au niveau de l'essai, la tertia via, je le mets ça, c'est... J'ai pas le droit de faire ça. Hein. Faisant ça, je fais une erreur pédagogique. De temps en temps, il faut en faire. Pour être intelligent, vous voyez, pour émerger du conditionnement. Parce que la pédagogie prise comme un absolu demeure dans le conditionnement. C'est pour ça que c'est quelquefois si rasoir. N'est-ce pas ? Parce que ça demeure dans le conditionnement. Alors, tertia via, la troisième voie de saint Thomas. Troisième voie, le possible est ordonné à l'être, à l'essai. L'essence peut exister ou peut très bien ne peut pas exister. Donc, tout ce qui est en puissance est dépendant de ce qui est en acte. Au niveau de l'être. Le vrai, l'intelligence, comme telle, est ordonnée à la vérité. Or, dans la vérité, il y a du plus et du moins. Pas dans la vérité, mais dans la puissance. L'intelligence est plus ou moins actuée. Vous voyez, s'il y avait un baromètre métaphysique, je pourrais... pourrez mesurer l'actuation actuelle de votre intelligence. Chaque fois que vous vous approchez de la vérité, vous vous actuez. Il y a du plus et du moins. La quatrième voie. Le bien, tout ce qui est amour étant donné au bien. L'amour me lie au bien. La volonté est plus ou moins déterminée par l'amour. Ça, c'est la cinquième voie. L'opération vitale, c'est la seconde voie. Et le mouvement, c'est la première voie. On reviendra là-dessus. Hein. Mais c'est pour vous montrer que en saisissant l'être en acte et l'être en puissance, on saisit la finalité dans toutes ses dimensions. Et c'est ça qui m'intéresse. Et que le principe de finalité, au plan philosophique, m'est donné selon cinq modalités. C'est le côté génial de saint Thomas. Il aurait pu nous le dire, mais il ne l'a pas dit, pour qu'on le recherche. C'est un pédagogue merveilleux, hein, de ne pas dire la voie par laquelle il a découvert les cinq voies. Pour lui, c'est évident. On ne peut découvrir l'existence de l'être premier que par la finalité.